Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à toutes et tous. Au sommaire de cette édition, les liaisons dangereuses des centristes espagnols inquiètent l'Élysée en vue de l'édification d'un pôle au centre du Parlement de Strasbourg. Explication dans un instant d'Audrey Tison. Les propositions pour l'Île-de-France du directeur de France Terre d'Asile en cette journée mondiale des réfugiés. Les combats et bombardements sans fin dans le nord-ouest syrien en zone dite de désescalade. Et enfin la disparition d'une pierre angulaire du cinéma italien, Franco Zeffirelli, est mort ce samedi à l'âge de 96 ans. Des tractations espagnoles qui n'arrangent pas les affaires européennes d'Emmanuel Macron. Après les municipales et régionales du 26 mai dernier, certaines œillades et alliances entre les centristes de Ciudadanos et l'extrême droite de Vox déplaisent au chef de l'État français et compliquent la structuration de l'entité centriste que les élus La République En Marche entendent rejoindre au Parlement européen. Bonsoir Audrey Tison.
Bonsoir.
Audrey, commençons par parler de ce qui s'est passé à Madrid.
Oui, la municipalité de Madrid qui vient officiellement de basculer à droite 3 semaines après les élections. C'est le conservateur José Luis Martínez Almeida qui vient d'être élu grâce aux voix de son camp, le Parti Populaire, mais aussi aux voix des élus de Ciudadanos, mouvement de centre-droit, et au vote des élus de Vox, parti d'extrême droite. C'est la deuxième fois qu'une telle grande alliance de droite se met en place en Espagne. Dans les faits, Vox ne sera pas vraiment associé à la gestion de la ville de Madrid, mais cette alliance de circonstances fait grincer des dents, notamment chez les socialistes qui déplorent que la droite accorde une force à une force comme Vox, la capacité de décider du gouvernement de la ville la plus importante d'Espagne. Il faut préciser que cette grande alliance de droite pourrait peut-être se reformer au niveau national pour faire opposition aux socialiste Pedro Sanchez, qui cherche toujours à former un gouvernement.
Alors Audrey, ces alliances, enfin disons ces possibles alliances, elles font bondir les macronistes qui avaient l'intention de travailler avec Ciudadanos à Bruxelles.
Ce n'est pas anecdotique, indique une source à l'Élysée qui vient confirmer les propos de la secrétaire d'État française aux affaires européennes, citée par la presse espagnole. Les alliances avec l'extrême droite ne sont pas une option et les conséquences éventuelles à tirer de cela appartiennent au groupe, ce fameux groupe centriste qu'il faut désormais appeler Renew Europe, affiche pour l'instant 106 membres, 106 eurodéputés. Si Ciudadanos venait à en être écarté, cela en ferait 7 de moins, pas de quoi complètement le déstabiliser, mais cela provoquerait encore des remous. Ciudadanos faisait partie du groupe centriste avant l'apparition de La République En Marche. De quel droit les Français les en expulseraient? Les macronistes qui ont déjà agacé une bonne partie de leurs alliés en tentant d'imposer Nathalie Loiseau comme présidente de groupe, elle qui a ouvertement critiqué plusieurs de ses collègues, a dû revoir ses ambitions à la baisse. Décidément, l'atterrissage des macronistes à Bruxelles ne se fait pas sans perturbation.
Merci de vos explications, Audrey Tison. D'autres difficultés pour le parti présidentiel qui ont trait cette fois à ses dysfonctionnements domestiques. 6 députés de La République En Marche annoncent leur retrait du comité politique du département du Nord, tout en dénonçant, je cite, un hiatus entre le discours d'égalité entre les femmes et les hommes et une forme de sexisme dans ce parti, ainsi que des violences politiques. En cette journée mondiale des réfugiés, l'une des ONG françaises à leur chevet émet une proposition de nature à voler au secours de celles et ceux qui ont fui dictature et misère économique. France, terre d'asile, à l'État de prendre ses responsabilités, insiste son directeur général, confère, dit Pierre-Henri, confère ce qui se passe à Paris.
En réalité, vous avez 50% de la demande d'asile qui vient se concentrer sur l'Île-de-France. Et vous n'avez pas une réponse qui est suffisamment organisée dans toutes les grandes capitales régionales. Et donc, vous avez des concentrations plus importantes sur la capitale. Et effectivement, les places manquent. Et donc, ce n'est pas une compétence, je voudrais le rappeler ici, de la ville, des collectivités. C'est une compétence de l'État. Et bien évidemment, évidemment qu'il faut se mettre autour d'une table, État, collectivité locale, territoriale, association, pour trouver une réponse adaptée à cette indignité. Et je pense que compte tenu de la difficulté que nous avons à produire des logements disponibles, il va falloir passer à autre chose et notamment peut-être réfléchir à la mise en place de modulaires, de villages en modulaire, des mobilhomes, des choses organisées avec des sanitaires, une sécurité de manière à ce que on arrête cette indignité.
Pierre Henry, directeur général de France Terre d'Asile avec Olivia Ferrandi. Moscou et Ankara avaient pourtant signé un accord en septembre dernier pour faire de la région d'Idleb une zone démilitarisée. Ces dernières semaines, pas un jour ou presque sans d'incessants bombardements de l'aviation de Damas et de la flotte russe. 45 morts au sud d'Idleb et au nord de Hama, dans le nord-ouest syrien. Les précisions à Beyrouth d'Aurélien Colli.
26 soldats du régime et 9 combattants rebelles tués, bilan d'une journée d'affrontement dans le nord-ouest de la province de Hama, à quelques kilomètres au sud d'Idlib, où les troupes de Damas tentent de reprendre deux localités, Jabaïn et Talmala, des villages conquis il y a quelques semaines par le régime, mais reperdus le 6 juin après une contre-offensive des groupes rebelles et des djihadistes qui avaient fait près de 100 morts en 24 heures. Jabaïn et Talmala sont dans la zone théoriquement démilitarisée par l'accord de septembre entre Moscou d'un côté, parrain du régime syrien, et Ankara, de l'autre, soutient des rebelles modérés. En réalité, c'est dans cette zone tampon qui entoure Idlib que se concentre l'offensive lancée fin avril par le régime. Combat au sol et bombardement avec l'appui de la Russie. Pour en déloger, selon Damas et Moscou, les djihadistes de la coalition Hayat Tahrir al-Sham, elle qui a pris le pas sur les rebelles modérés à Idlib en janvier dernier et qui contrôle depuis la province. Après 6 semaines de violence, le bilan avoisine désormais les 600 morts côté rebelles et à peu près autant du côté des forces gouvernementales. Environ 400 civils ont aussi été tués par des bombardements du régime, dont une dizaine encore aujourd'hui. Hier, le chef de la diplomatie turque a estimé que la Russie n'avait plus aucune excuse pour ne pas faire pression sur Damas pour que cessent ses frappes aériennes.
Toujours en Syrie, cette information qui nous est parvenue quelques minutes seulement avant le début de cette édition. Une explosion a eu lieu dans une zone militaire de l'ouest de la capitale syrienne. Information que l'on doit à l'agence officielle du régime. L'explosion a eu lieu dans une zone militaire à Doumar, un quartier de l'ouest de la capitale. Carrie Lam, qui dirige l'exécutif de Hong Kong, a reçu le soutien de Pékin en fin de matinée, peu après avoir décidé de suspendre ce projet de loi qui a conduit un Hongkongais sur 7 dans la rue dimanche dernier. Combien seront-ils demain à demander non pas la suspension, mais le retrait d'un texte qui autorise les extraditions vers la Chine populaire? C'est une correspondance à Pékin de Dominique André.
C'est Carrie Lam, la chef du gouvernement local, qui est venue annoncer la nouvelle devant la presse dans l'un des bâtiments du gouvernement de Hong Kong.
Le gouvernement a décidé de suspendre la procédure d'amendement législatif, de relancer notre communication avec tous les secteurs de la société, de travailler davantage et d'écouter les différents points de vue de la société.
Soutenue par Pékin, Carrie Lam met le projet sur pause. Ce recul tactique est une victoire pour les opposants qui gagnent une bataille, mais le projet n'est pas abandonné, se désole une étudiante qui ira manifester demain.
Je ne sais pas pourquoi Carrie Lam veut continuer sur cette voie en imposant son projet de loi. Elle aurait pu demander pardon. Elle est trop stricte, même si elle entend les gens qui lui disent « vous ne pouvez pas faire ça », elle continue.
Demain, les manifestants demanderont le retrait définitif du projet, des excuses pour les violences de mercredi et une nouvelle fois la démission de Carrie Lam, impopulaire, hostile, jugé cassant. 2/3 des Hongkongais ont une mauvaise opinion d'elle selon le dernier sondage.
Florence est en deuil et le cinéma italien vient de perdre l'une de ses figures célébrissimes. Franco Zeffirelli s'est éteint à l'âge de 96 ans. Il aura brillé au cinéma, à l'opéra et au théâtre. Correspondance de Rome de Marie Duhamel.
À la mairie de Rome, ses admirateurs pourront bientôt se recueillir sur sa dépouille. Après ses funérailles, le maestro, surnom qu'il appréciait, sera enterré à Florence, sa ville de naissance ou un centre culturel, mais déjà à l'honneur ses décennies de travail et de succès. Sa carrière commence à tôt, aux côtés d'un des plus grands, le réalisateur Luchino Visconti. Le jeune orphelin rencontre alors Anna Magnani, Maria Callas, Richard Burton. Il aiguise son sens de l'esthétique et passe derrière la caméra. La langue de Shakespeare et son film le plus célèbre, Roméo et Juliette, lui offrent la gloire et le titre de sœur, rare reconnaissance. Polémique, volontiers féroce, il avait également une foi profonde, comme en témoigne son film colossal, Jésus. Franco Zeffirelli n'abandonnera jamais le cinéma, mais se réfugia souvent au théâtre. Sa mise en scène de Aïda, opéra de Verdi, a ainsi régulièrement ouvert les saisons de la Scala à Milan. En 1994, changement de décor, il entre au Sénat sous les couleurs du parti de Silvio Berlusconi, sans parvenir à imposer ses projets culturels. Depuis quelques années, malade, il vivait en retrait du monde, entouré de quelques amis et de ses fils adoptifs.
Quelques mots de la météo de demain, dimanche, temps plus calme partout, bien ensoleillé au sud. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau, à la technique Clément Daté.